Chapitre 10.
Que se passe-t-il?
Cria Rika alors que Richard, Nietzsche et Kara couraient vers elle. Si Nathan et Anna étaient très nettement distancés, Zed se situait en milieu de peloton.
Viens avec nous,
lança Richard à la collègue de Kara.
Quelqu'un approche de la forteresse,
expliqua celle-ci sans cesser de courir. Richard contourna une très longue table rangée contre un mur sous un grand tableau des plus bucoliques. Autour d'un lac à l'onde paisible, des sentiers s'enfonçaient dans une forêt de pins ombragés. Dans le lointain, derrière un fin voile de brume, des montagnes majestueuses semblaient tendre leurs pics vers le ciel comme si elles quêtaient les caresses du soleil. Dès qu'il contemplait un paysage de ce type, Richard éprouvait une violente crise de mal du pays. Que n'aurait-il pas donné pour retourner vivre dans la magnifique forêt de Heartland? Cela dit, le tableau lui rappelait surtout le fantastique été passé avec Alan dans une cabane qu'il avait construite de ses mains au cœur des montagnes. Les mois de convalescence de Kalan, après que des brutes l'eurent battu quasiment à mort, restaient un des plus beaux souvenirs de Richard. Dès que sa femme avait pu marcher, il lui avait fait découvrir les beautés de la nature. Fréquentant depuis toujours les palais, cette citadine endurcie avait vite cédé au charme hypnotique de la forêt. Puis Nietzsche avait déboulé, forçant Richard à la suivre et mettant ainsi un terme à son rêve éveillé. À l'époque, celle qu'on surnommait « la maîtresse de la mort » était une zélatrice convaincue de l'ordre impérial. Mais si elle ne s'en était pas chargée, quelqu'un d'autre aurait brisé le bonheur de Richard. Tant que l'ordre ne serait pas neutralisé, personne ne pourrait aller jusqu'au bout de ses rêves, ni échapper au cauchemar collectif dans lequel vivait déjà une bonne partie de l'humanité. Après avoir fait le tour d'une grande colonne de marbre ornée d'une lettre capitale dorée à leur fin, le sourcier s'engagea dans un escalier en colimaçon. Richard et Nietzsche ouvrant la marche, les deux mordecites les suivaient de près au cas où ils auraient besoin de leur aide. Petit, selon les critères de la forteresse, l'escalier aurait fait passer tous ceux de Terre d'Ouest pour de ridicules escabeaux. Arrivé en bas, le sourcier marqua une pause pour déterminer quel chemin serait le plus rapide. Dans le complexe, il fallait souvent se méfier de ce qui semblait évident, car on risquait de s'y perdre encore plus sûrement que dans une forêt de bouleaux. Kara se fraya soudain un passage entre Richard et Nietzsche. De toute évidence, elle entendait prendre la tête de la petite colonne et laisser Rika s'occuper de l'arrière-garde. Selon ce que savait Richard, il n'existait pas de hiérarchie officielle parmi les mordecites. Cela posé, il n'avait jamais vu une femme en rouge contester l'autorité officieuse de Kara. Tout en avançant, le sourcier reconnut les motifs très particuliers qui composaient une frise noire et dorée des deux côtés d'un couloir, à mi-hauteur des riches lambris en acajou. Pratiquement depuis qu'il savait marcher, Richard utilisait les détails de son environnement pour s'assurer qu'il suivait le bon itinéraire. Comme les troncs d'arbres dans la forêt qu'il identifiait grâce à la forme particulière d'une branche ou au tracé unique d'une entaille dans l'écorce, les spécificités architecturales d'une salle ou d'un couloir lui permettaient de se déplacer sans trop de peine dans la forteresse.
« Par là !»
dit-il en tendant un bras. Kara en profita pour passer en tête comme elle en avait l'intention depuis le début. Alors que les bottes du sourcier et celles des deux mordecites produisaient un boucan d'enfer sur les dalles du sol, Nietzsche avançait avec la grâce et la distinction d'une ballerine. Richard s'avisa soudain qu'elle était pieds nus. Comment faisait-elle pour suivre ce rythme d'enfer sans souliers et sur une surface désagréablement rugueuse? Aux yeux du sourcier, la magicienne n'était pas du tout le genre de femme qui aimait courir sans ses chaussures. Pourtant, si déplaisant que fût pour elle cet exercice, elle s'en acquittait sans perdre une once de sa distinction et de sa majesté naturelle. Deux jours plus tôt, Richard avait bien cru que son ami ne courrait plus jamais. S'il se réjouissait de l'avoir arraché au construct après l'explosion de la fenêtre, il aurait été bien en peine d'expliquer comment il s'y était pris. Quelques minutes durant, il s'était dit que la magicienne était condamnée. Et si Zed n'avait pas été là pour l'aider après la neutralisation du construct, cela aurait été certainement le cas. Après avoir descendu un long couloir, dans un relatif silence car le sol ici était couvert de confortables tapis, Kara et les autres passèrent entre deux colonnes de marbre rouge et déboulèrent dans le hall d'entrée ovale de la forteresse. En hauteur, soutenue par des colonnes et des arches, une promenade faisait tout le tour de la salle. Les portes qui se dressaient tout au long de ce balcon donnaient toutes sur des couloirs. Configurés comme les rayons d'une roue, ces passages conduisaient aux différents niveaux et secteurs de la forteresse du sorcier. Richard descendit 5 marches et passa à côté de la grande fontaine en forme de feuille de trèfle qui trônait au centre du sol carrelé. Cascadant de vasque en vasque, l'eau finissait sa course dans un bassin entouré d'un muret de marbre blanc conçu pour servir également de banc. À une centaine de pieds de hauteur, le toit vitré laissait passer la chaude lumière et la chaleur du soleil. Quand le petit groupe eut atteint le fond du hall d'entrée, Richard doubla Kara et ouvrit à la volée un des battants de la grande double porte. Puis, il s'immobilisa sur le palier du petit escalier aux marches de granit qui donnait sur la cour intérieure. Nietzsche se campa sur la gauche de Richard et Kara se plaça sur sa droite. Jugeant que le seigneur Hall était assez bien protégé, Rika décida de couvrir le flanc exposé de la magicienne. Alors que les 4 compagnons reprenaient leur souffle après une course éprouvante, Richard jeta un coup d'œil à l'enclos à chevaux adossé au mur d'enceinte de la forteresse. Grâce à cette charmante étendue de verdure, la cour intérieure du complexe avait des allures de confortables défilés de montagne. Sur l'épaisse muraille noire, de longues traînées couleur crème, le calcaire laissé par les écoulements d'eau au fil des millénaires, donnait l'impression que la pierre fondait lentement. 2 chevaux avançaient dans le court tunnel qui conduisait du pont-levis à la cour. À cause de la pénombre, Richard ne parvint pas à identifier les cavaliers. Mais de toute évidence, il connaissait le chemin et n'était nullement angoissé de pénétrer dans la forteresse par l'accès jadis réservé aux sorciers et à leurs proches collaborateurs. Pour les simples visiteurs, il existait une autre entrée, délibérément conçue pour impressionner le badaud. Pour des raisons hélas évidentes, personne ne l'empruntait plus depuis beau temps. Au souvenir de sa première incursion dans le complexe, Richard sentit les poils de sa nuque se hérisser. Comme la jeunesse était impétueuse, quand son ignorance la protégeait encore de la réalité. Dès que les 2 chevaux émergèrent du tunnel, Richard reconnut un des cavaliers, ou plutôt des cavalières. Chota. La voyante chercha le regard du sourcier et lui fit son petit sourire complice habituel. Se méfiant d'instinct de Chota, Richard avait toujours douté de la sincérité de ce sourire. Quand il s'agissait d'elle, on ne pouvait être sûr de rien et surtout pas d'être en sécurité en sa compagnie. Richard ne reconnut pas la seconde femme, de 10 ou 15 ans plus jeune que la voyante, qui chevauchait légèrement derrière Chota, histoire de lui témoigner toute sa déférence. Plutôt jolie, l'inconnue aux yeux d'un bleu céruléen et aux cheveux blonds très courts ne jugeait pas nécessaire d'afficher un sourire convenu. En traversant la cour, elle ne cessa de regarder autour d'elle, comme si elle craignait que des démons jaillissent soudain de la pierre noire du mur d'enceinte. Comme toujours, Chota faisait montre d'une confiance en elle et d'un calme des plus déroutants.
« Chota, la voyante !»
souffla Kara à l'attention de Nietzsche.
« Je sais !»
murmura la magicienne sans quitter du regard la superbe femme qui approchait du pied des marches. Chota tira sur les rênes de sa monture, qui s'immobilisa à quelques pas de l'escalier. Le dos bien droit, la fascinante créature croisa les mains sur le pommeau de sa selle.
« Il faut que je te voie !»
dit-elle à Richard comme s'il était seul pour l'accueillir. Le sourire, qu'il fût sincère ou non, brillait désormais par son absence.
« Nous avons beaucoup de choses à nous dire. »«
Où est ton petit assassin de compagnon, ce misérable Samuel ?»
Chevauchant en Amazone, Chota glissa de sa selle avec la grâce éthérée d'un esprit, en supposant que les spectres aient besoin de pratiquer l'équitation, ce qui n'était nullement garanti.
« C'est un des sujets que nous devons aborder, »
répondit Chota, la voix vibrant légèrement d'indignation. La seconde femme mit également pied à terre et s'empara des rênes que Chota, un peu comme une princesse qui s'attend à être servie, tenait en l'air comme si elle ne savait plus qu'en faire maintenant que chevaucher n'était plus d'actualité. Sans quitter Richard du regard, la voyante approcha du pied de l'imposant escalier. Alors que sa magnifique chevelure rousse ondulait sur ses épaules, scintillant à la douce lumière du jour, sa robe couleur rouille, en parfaite harmonie avec sa crinière, mettait en valeur toutes les courbes de son corps, parfois en les dévoilant et le plus souvent en les suggérant. En matière de séduction, la voyante jouait et gagnait sur tous les tableaux. Cessant enfin de dévisager le sourcier, Shota défia Nietzsche du regard. Le genre d'agression délibérée qui aurait fait pâlir presque n'importe qui. Sauf l'ancienne maîtresse de la mort, bien entendu. Richard sonda soudain qu'il était en présence des deux femmes les plus dangereuses du monde. Lorsque pareille tigresse s'affrontait, il aurait été de bon ton que des nuages noirs zébrés d'éclairs s'accumulent dans le ciel, mais le temps restait d'une imperturbable clémence.
« Ton ami Chase a été grièvement blessé, » annonça Shota en rivant de nouveau les yeux sur le sourcier.
Richard s'attendait à beaucoup de choses, mais sûrement pas à ça. Avec Shota, on était toujours surpris, certes, mais là...
« Chase ?»
Zed arriva soudain, écarta Kara et Richard et vint se camper devant la voyante.
« Shota !»
s'écria-t-il. Il était rouge comme une pivoine et ça n'avait rien à voir avec la course effrénée dans les couloirs.
« Comment oses-tu venir ici ? Pour commencer, tu as délesté Richard de son épée, par la ruse, puis... »
Le sourcier leva un bras pour barrer le chemin au vieux sorcier qui semblait décidé à dévaler les marches.
« Du calme, Zed. Shota vient de m'apprendre que Chase a été blessé. Et selon elle, c'est grave. De quel droit cette... »
Le premier sorcier ne termina pas sa phrase, car il venait d'assimiler la déclaration de Richard.
« Chase, blessé ? Par les esprits du bien, comment est-ce arrivé ?»
Allant décidément de surprise en surprise, le vieil homme remarqua la compagne de voyage de Shota, toujours plantée là avec les rênes des deux chevaux.
« Djebra ? Djebra Bevinvier ?»
La femme sourit de toutes ses dents.
« Ça fait un bail, sorcier Zorender. Je me demandais si vous alliez vous souvenir de moi. »
Cette fois, Richard ne fit rien pour empêcher son grand-père de dévaler les marches. Excité comme un gamin, le vieil homme prit Djebra dans ses bras, l'étreignant avec la tendresse paternelle d'un protecteur.
« Sorcier Zorender. »
« Zed, c'est Zed pour toi. »
Djebra s'écarta un peu du vieil homme pour le dévisager tendrement. Un sourire dissipa un instant la tristesse qui voilait le regard de la jeune femme, mais cette éclaircie ne dura pas.
« Zed, ma vision s'est assombrie. »«
Assombrie ?»
Inquiet, le vieil homme s'écarta aussi et prit Djebra par les épaules.
« Depuis combien de temps ?»«
Près de 2 ans. »«
2 ans ? Tant que ça ?»«
Je me souviens de vous, »
dit Richard en commençant de descendre les marches. « Callan
m'a dit que vous étiez... qui ?»
demanda Djebra, plus que perplexe.
« Le fantôme que poursuit le sourcier. »
Lâcha Shota avec un regard plein de défis pour Richard.
« La femme qu'il cherche n'a rien d'un spectre. »
la corrigea Nietzsche.
« En partie grâce aux indices douteux et plutôt vagues que vous nous avez fournis, il est à présent établi que Richard dit la vérité depuis le début. Apparemment, vous êtes toujours dans l'erreur à ce sujet. »
Voyant le regard de son ami, Richard se souvint une nouvelle fois du surnom qu'elle portait naguère, la maîtresse de la mort. Dès qu'elle s'énervait un peu, toute son autorité lui revenait, et il y avait dans le monde très peu de femmes aussi impressionnantes, à part peut-être Shota. Pour l'heure, Nietzsche tenait à montrer qu'elle restait une personne redoutable si on la provoquait. Imperturbable, Shota contempla éloquemment la fâcheuse chemise de nuit rose. Richard s'attendait à quelques sarcasmes, bien au contraire, un éclair meurtrier passa dans les yeux de la voyante.
« Tu as dormi dans son lit ?»
dit-elle, sincèrement étonnée par une déduction qu'elle aurait dû faire depuis le début.
« Oui, »
confirma simplement Nietzsche en bombant le torse. Un rictus méprisant étira la bouche de Shota.
« Mais tu n'as pas réussi à coucher avec lui. As-tu seulement essayé, très cher, ou la peur d'être rejetée t'en a-t-elle empêché ?»
Craignant que les deux femmes en viennent à des extrémités regrettables, par exemple s'arracher les yeux ou se carboniser l'une l'autre, Richard tira prudemment Nietzsche en arrière.
« Tu prétends être là pour me parler, Shota. J'espère que ce n'est pas pour entendre ces fadaises que je me suis déplacé jusqu'ici. »
La voyante eut un petit soupir.
« J'ai trouvé ton ami Chase grièvement blessé. »
« Tu l'as déjà dit. Comment a-t-il été blessé ?»
Shota soutint bravement le regard du sorcier.
« C'est l'œuvre d'une épée que tu connais très bien. »
« Tu veux dire que Chase a été blessé par l'épée de vérité ? Samuel l'a attaqué ?»«
C'est ça, oui. Et tu en es responsable ?»
lança Zed en braquant sur la voyante un index accusateur.
« C'est absurde !»
Shota aussi leva un index pour avertir le vieux sorcier qu'avancer vers elle serait très périlleux.
« Je n'ai pas besoin d'une lame pour faire du mal. »
Comme si ses paroles avaient fait mouche, Zed s'immobilisa.
« Tu veux une démonstration, sorcier ?»«
Assez !»
cria Richard. Dévalant les marches, il vint se camper entre les deux belligérants.
« Shota, dis-moi ce qui s'est passé !»«
Désolé, mais je ne suis pas sûr de le savoir. »«
Tu as donné mon arme à Samuel, »
dit Richard, tentant sans succès de contenir sa colère.
« Je t'ai prévenu que ton compagnon n'était pas fiable. Malgré cela, tu lui as remis l'épée. » À présent, je veux savoir ce qu'il mijote. Où est Chase? Dans quel état de santé est-il? Et qu'est-il advenu de Rachel?
Rachel?
La petite fille qui l'accompagnait. Sa fille adoptive, en fait. Il faisait route vers Terre d'Ouest, parce que Chase voulait aller chercher sa famille pour l'installer ici.
Prétends-tu que la petite n'était pas avec lui?
Quand je l'ai trouvée dans un piètre état, Chase était seule.
Alors qu'il regardait Rika prendre enfin les deux chevaux par la bride pour les conduire aux écuries, Richard tenta de comprendre pourquoi Rachel n'était pas restée avec son père adoptif. Pouvait-il lui être arrivé malheur? C'était toujours possible, bien sûr, mais futée et loyale comme elle l'était, la gamine avait plutôt dû partir chercher de l'aide. Et maintenant elle était perdue, le Créateur seul savait où.
Et comment as-tu été amené à trouver Chase?
Demanda Richard, soudain frappé par la bizarrerie du récit de Shota.
La voyante hésita à répondre. À l'évidence, elle n'avait aucune envie de passer à confesse, mais elle finit par se résigner. « J'étais en train de traquer Samuel. »
Surpris, Richard regarda Nietzsche, qui demeura parfaitement impassible, comme si elle n'éprouvait pas une once d'émotion. Ce visage de marbre le fit penser au masque d'inquisitrice dont lui avait souvent parlé Callan. Parfois amenées à faire des choses terribles, les inquisitrices étaient entraînées à dissimuler leurs sentiments sous une façade impénétrable.
« Comment va Chase ?»
demanda Richard en revenant à l'essentiel. Apprendre pourquoi Shota traquait Samuel pouvait attendre un peu.
« Il s'en sortira ?»«
Je crois, » répondit Shota. « Mais une épée lui a traversé le corps. »
« Mon épée !»
la corrigea Richard, furieux.
La voyante ne releva pas l'interruption.
« Je ne suis pas une guérisseuse, mais j'ai certains pouvoirs qui m'ont aidé à le convaincre de faire demi-tour sur le chemin qui conduit au royaume des morts. Il n'est plus en danger en ce moment, mais il n'est pas prêt de tenir debout de nouveau. »«
Pourquoi Samuel ne l'a-t-il pas tué ?»
demanda Kara, toujours campée en haut des marches.
« Il a blessé Tovis en l'achever, »
rappela Nietzsche.
« Pourtant, Samuel est capable de tuer, »
dit Richard. Shota croisa les mains dans son dos.
« On dirait bien qu'il n'a pas trouvé le courage d'ôter une vie avec cette arme. L'ayant fait par le passé, quand l'épée lui appartenait, il sait très bien ce qu'endure la personne qui s'en sert pour tuer. Je suis sûr, Richard, que tu vois très bien ce que je veux dire. »
« Cette arme n'est pas faite pour se retrouver entre de mauvaises mains !»
grogna Richard. Shota fit mine d'ignorer la remarque.
« Samuel est un lâche, »
dit-elle,
« et il se comporte en tant que tel. Les couards préfèrent souvent ne pas assister à la mort de leur victime, du coup ils les laissent agoniser dans un coin.
« La souffrance est bien plus terrible, »
dit Zed.
Il aime peut-être torturer moralement et physiquement ses victimes. »
Shota secoua la tête.
« Samuel est un poltron et un opportuniste. La cruauté ne le motive pas car il ne pense qu'à lui. Les lâches ne planifient presque rien, cédant le plus souvent à leurs impulsions. Quand ils veulent quelque chose, ils le prennent. Samuel ne réfléchit jamais aux conséquences de ses actes. Lorsqu'un objet ou une vie lui plaît, il s'en empare. Redoutant la souffrance liée à l'épée, il tue à moitié avec elle, et ça lui suffit amplement. La personne souffre atrocement avant de s'éteindre. Que voulez-vous que ça lui fasse puisqu'il n'est pas là pour être témoin de son calvaire? Loin des yeux, loin de l'esprit. C'est comme ça qu'il a traité Chase. »
Sachant tout ça, tu lui as donné l'épée, rugit Richard, la voix vibrant de colère.
Shota dévisagea un moment le sourcier avant de répondre.
On ne peut pas voir les choses comme ça, Richard. Je lui ai remis l'épée pour le rendre heureux. J'ai cru qu'il serait satisfait qu'elle retourne entre ses mains et qu'il oublierait son éternelle frustration. Tu sais bien qu'il gémit sans cesse parce qu'on lui a volé son arme.
Shota coula un regard assassin à Zed, le responsable de ce larcin.
Comme Samuel, résuma Richard. Tu n'as pas daigné réfléchir aux conséquences de tes actes. Tu as cédé à une impulsion, voilà tout.
Shota tourna de nouveau la tête vers le sourcier.
Après tant d'années, tout ce qui t'est arrivé, tu es toujours aussi arrogant.
Richard ne consentit même pas à répondre.
Je crains que toute cette histoire soit plus compliquée que je l'ai cru au début, dit Shota, beaucoup moins agressive.
Samuel doit avoir blessé Chase, puis capturé Rachel, fit Zed en se grattant pensivement le menton.
Richard n'avait pas envisagé cette possibilité. Une grossière erreur.
Pourquoi Samuel agit-il ainsi?
Je suis désolé, mais je n'en sais rien.
Shota posa de nouveau les yeux sur Nietzsche.
Qui est Ovi, la femme qui l'a blessée?
C'est une sœur de l'obscurité. Son récit est fiable, même si elle ne l'était pas. Bien sûr, elle ignorait qui était Samuel, mais elle était très bien placée pour reconnaître l'épée de vérité. Au palais des prophètes, elle comptait parmi les formatrices de Richard. Avant de mourir, elle m'a révélé que ses complices et elle avaient lancé un sort d'oubli sur Kalan. Ensuite, elles se sont servies de leurs victimes pour voler les boîtes d'Orden, en Dara.
Shota plissa le front, sincèrement perplexe.
Les boîtes d'Orden ont été remises dans le jeu, ajouta Richard.
Shota eut un geste nonchalant.
Ça, c'est une des rares choses dont j'ai eu connaissance. En revanche, j'ignore ce qu'a fait exactement Samuel.
Richard se demanda jusqu'à quel point Shota prêchait le faux pour savoir le vrai. Mais il décida que ça n'avait plus aucune importance.
Après le larcin, Tovi fuyait le palais du peuple avec une des boîtes d'Orden. Samuel l'a attaqué, blessé avec sa lame et délesté de l'artefact.
Shota parut tout d'abord surprise. Puis la colère chassa son expression de petite fille déconcertée.
« J'ai toujours connu Chase, » dit Richard. « Même si tout le monde peut commettre une erreur, il n'est pas du genre à tomber dans un guet-apens. Une sœur comme Tovi ne devait pas non plus être du style à se laisser surprendre. Les magiciennes de ce calibre repèrent les traquenards à des lieues à la ronde. »«
Où veux-tu en venir ?»
demanda Shota. Samuel a réussi à tomber sur le dos d'une sœur de l'obscurité et d'un garde-frontière. Et comme d'habitude, chaque fois qu'il fait le mal, tu joues la surprise et nie être de mèche avec lui. Shota, quel rôle joues-tu dans tout ça?
Aucun, Richard. J'ignorais ce qu'il manigançait.
Tant de bêtises ne te ressemblent pas, Shota.
Tu ne sais pas la moitié de ce qu'il importe de connaître.
Mobilisant tout son courage, la voyante commença de gravir les marches.
Ne t'ai-je pas dit que nous devions parler?
Richard saisit Shota par le bras.
Est-ce grâce à toi que Samuel a pu attaquer Chase, surprendre Tovi et voler la boîte? Qu'as-tu fait pour l'aider, à part lui procurer l'arme dont il avait besoin et tout lui raconter au sujet des boîtes d'Orden et de leur pouvoir?
Shota ne broncha pas sous l'agression.
Veux-tu me tuer?
demanda-t-elle simplement.
« Te tuer ? Shota, je suis le meilleur ami que tu as depuis ta naissance. »«
Dans ce cas, oublie ta colère et écoute ce que Djebra et moi sommes venus te dire. »
Shota se dégagea de la prise du sourcier et entreprit de gravir l'escalier.
« Allons à l'intérieur, loin de cet abominable mauvais temps. »
Richard leva les yeux vers le ciel d'un bleu limpide.
« Le temps est magnifique, » dit-il en suivant la voyante du regard.
Arrivé en haut, Shota défia de nouveau Nietzsche du regard. Sous ses yeux de prédatrice, il fallait être d'une solidité à toute épreuve pour ne pas flancher. Mais Nietzsche était une adversaire à la hauteur de la voyante, et c'était sans doute ça qui mettait Shota hors d'elle.
« Pas dans ce monde !» soupira-t-elle. « Là, il pleut à verse. »